On a terminé, bon, pour ceux qui ont entendu la suite de ce que j'ai prêché, là, c'est un peu décousu parce que ça m'arrive périodiquement, là, à chaque mois. En ce qui concerne les héros de la foi, et on a terminé les principaux héros de la foi. Si on finissait Hébreux 11, ben, il y a une série rapide là, de personnes et le temps nous manquerait si on parlait de Gédéon et on en nomme plusieurs. Et puis on parle de la foi aussi, qu'il y en a qui sont morts dans la foi, et il y en a qui ont été et des héros de la foi dans la mort, dans la persécution, et d'autres qui ont été des héros de la foi sur le champ de bataille, sur des à la guerre ou différentes choses comme ça. Et bref, il y a plusieurs choses, je trouve, intéressantes pour notre vie spirituelle à aller puiser dans les héros de la foi. Et là, en tournant la page et en cherchant un autre livre ou un autre thème, il y a un livre que j'ai lu dernièrement et puis je me suis dit, il y a des choses intéressantes à aller chercher dedans. Et avant que je vous dise qu'est-ce que j'ai l'intention de faire pour les prochaines semaines que j'aurai à prêcher le soir, j'aimerais qu'on commence avec un thème en particulier qui va introduire le livre comme tel. Et le thème qu'on aborde est un peu l'opposé de ce que le livre démontre dans son histoire, dans les Écritures. Vous allez comprendre au fil qu'on va avancer. J'aimerais quand même qu'on prie en commençant et puis on va lire quelques textes ensemble. Seigneur, on vient devant toi pour te louer, pour t'adorer. Tu es un grand Dieu, Seigneur, et on a besoin de toi et tu prends soin de nous et on est vraiment reconnaissant. Je te prie en même temps ce soir que tu puisses parler à nos cœurs, parler à nos têtes. On veut être des auditeurs, Seigneur, qui vont porter attention à ce que tu as à nous dire parce qu'on veut transformer nos vies. On veut t'offrir nos vies aussi en sacrifice vivant. On veut t'obéir. On veut que tu nous parles d'une façon claire et que tu sois glorifié aussi à travers notre marche chrétienne. C'est au nom de ton Fils qu'on te prie ces choses. Amen. Le thème par lequel on va commencer avant que tout cela va nous conduire dans l'introduction de ce vers quoi je vais aller, le thème que je veux commencer, c'est la liberté. Quelle belle chose que la liberté! Quelle chose dangereuse que la liberté! La liberté est un peu paradoxale en elle-même, où ce que c'est beau puis c'est dangereux. On peut la saisir, mais en même temps, on doit être vigilant de ce que l'on en fait. La première question que j'ai à vous poser, et c'est vraiment intéressant parce que Jacinthe t'a lu tantôt 2 Corinthiens 3, que je vais relire rapidement tantôt, mais je vous pose une première question. Je vais vous poser quelques questions et après ça, on va aller lire quelques textes. Pourquoi Christ nous a affranchis? C'est pour la liberté. Pourquoi est-ce que Dieu nous a délivrés? Pourquoi est-ce que Christ nous a affranchis? C'est pour la liberté. Un volontaire qui veut me lire Galates 5, 1. Pendant ce temps-là, je vais vous relire ce qu'on a lu tantôt en ce qui concerne la création. C'était dans Romains 8. En attendant que quelqu'un trouve Galates 5.1, et en espérant qu'il ne va pas le trouver avant de moi, parce que ça ne servira à rien. On avait lu tantôt, c'était Romains 8, et puis dans le verset 19, ça disait « Aussi la création attend-elle un ardent désir, la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle sera quoi? » Affranchie de quoi? De la servitude de la corruption. Qu'elle soit affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à quoi? À la liberté de la gloire. Alors, Christ, il y a quelqu'un qui veut tourner dans Galates 5.1, s'il te plaît, Yvan? OK. Christ nous a affranchis, il nous a libérés du péché. Et en étant affranchis, on est libérés et c'est pour ça qu'il nous a affranchis. Et quel est l'encouragement que Paul dit? Mais demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous la servitude en revenant justement sous l'esclavage du péché. C'est quoi la liberté? Comment est-ce que vous définissez? La liberté, c'est quoi? Yvan? Oui, OK. C'est bon. D'autres commentaires? Oui, Jean-Pierre. OK. OK. Si tu as track, t'es correct. T'es dans la liberté. OK. Oui, Manuel. C'est comment? Sans contrainte. OK. Et dans le cas de la liberté que Dieu nous a donnée, sans contrainte de quoi? Du péché. Quoi d'autre aussi? Comment est-ce que vous définissez la liberté? C'est quoi la liberté? Vous pouvez dire plusieurs bons commentaires. Là. On va s'enrichir avec les choses que vous pouvez sortir aussi des Écritures. Et j'ai un texte précisément que je veux qu'on aille voir. Oui, Serge. Oui. Oui. Alors, Paul, il cite ça aux Corinthiens, qui se permettait tout, et puis finalement, ben, il se tirait dans le pied. Ouais. Ouais. C'est bon. Merci, Serge. Tournez, quelqu'un qui veut lire Éphésiens 3, tournez ensemble dans Éphésiens 3. On va lire les versets 8 à 12. Pourquoi est-ce que Dieu nous a affranchis? Pourquoi est-ce que Christ nous a affranchis? C'est pour la liberté. Demeurez donc ferme et ne pas revenir dans cet esclavage-là. Et c'est quoi la liberté? Éphésiens 3 nous donne une belle définition, du moins de ce que l'on a dans la liberté. Quelqu'un qui veut lire Éphésiens 3, 8 à 12? OK, j'ai 5. OK. Oui, verset 12 aussi. On vient de lire. Excusez, je suis arrêté à 11, là, mais j'ai vu 11, mais on est arrêté à 12. Paul, il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, j'ai cette grâce qui m'a été accordée d'annoncer aux païens la richesse incompréhensible de Christ. La richesse de ce que Dieu, de ce que Christ veut accorder et de mettre en lumière le moyen de faire connaître quoi? Le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. C'est pourquoi les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par qui? Par l'Église. Connaissent par l'Église. Ils vont connaître quoi? La sagesse infinie, infiniment variée de Dieu. Dieu avait un dessein, Dieu avait un plan qu'il était gardé. Paul avait ce ministère-là de révéler, de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de ce que Dieu a fait et que par l'Église, même les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée selon le dessein éternel de quoi? Exécuté par qui, premièrement? Par Jésus-Christ, notre Seigneur. En lui, nous avons par la foi en lui quoi? La liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Pourquoi est-ce que Dieu voulait nous libérer de nos péchés? Pourquoi est-ce qu'en Jésus-Christ, on peut être libéré de nos péchés? C'est quoi l'intention de Dieu? La communion avec lui. De nous libérer, mais est-ce que c'était juste de nous libérer puis de nous lâcher l'os puis de plus nous revoir? Non! Son intention était quoi? Mais d'avoir une communion, de nous rencontrer. Que le péché ne soit plus un obstacle dans notre relation avec lui. Il voulait nous libérer. Et pour ça, pour être libéré, il fallait placer notre foi en Jésus-Christ, qui est son plan est mis à exécution par Jésus-Christ. Et qu'en plaçant notre foi en lui, on a la liberté de nous approcher comment? De nous approcher de Dieu avec confiance. Quelqu'un qui veut me citer Hébreux 10, 19? Est-ce que quelqu'un le connaît par cœur ou peut-être le lire? Hébreux 10, 19? Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. Par le moyen du sang de Jésus, on a une libre entrée, dans le sanctuaire. Alors, Dieu nous a affranchis, Jésus nous a affranchis du péché. nous a donné la liberté, et une liberté qui a comme qui a quoi comme but, disons, dans un sens premier et important, ben une relation avec lui, que le péché soit enlevé. C'est quoi la responsabilité qui accompagne la liberté? En tant que croyant, la liberté que Dieu nous donne, la liberté engendre la responsabilité aussi. Il y a des responsabilités avec la liberté. Quelles sont les responsabilités qui sont reliées à la liberté en Christ? Danny? De ne pas empiéter sur celle des autres. Ma mère me dit ça souvent. Ta liberté finit où celle des autres commence. OK. Daniel, qu'est-ce que tu allais dire? La fidélité. Alors, la responsabilité reliée à la liberté, c'est d'être fidèle à Dieu, au Seigneur. Oui, j'ai vu Jean-Pierre, après ça, Mylène puis Guy. De marcher selon les Écritures. La liberté m'attache aux Écritures. Si je suis les Écritures, je vive aussi la liberté. C'est Jésus qui disait ça. Je vais le dire tout croche, là, mais ça m'est juste venu en tête comme ça. Là. Il me semble que c'est dans Jean 8, vous m'aiderez. Là. Si vous connaissez la vérité, elle vous affranchira. Jean 8, 32? OK, y a-t-il quelqu'un qui peut citer mieux que moi? C'est ça. Alors, la liberté, si on connaît la vérité que l'on peut comprendre des Écritures, puis on la met en pratique, bien, elle va nous affranchir. On va vivre cette liberté-là. Il y avait Mylène après ça, Guy. Ouais. On a un salut qui nous est accordé, une liberté qui nous est donnée, mais on a ce que tu dis, la responsabilité de marcher, d'apporter des fruits dignes de la repentance, de marcher selon la repentance. Guy, puis après ça, Serge. Ouais. Ouais. Je vais faire attention à ma liberté pour pas qu'elle empiète sur la conviction de mon frère ou de ma sœur, un peu comme ce que Danny disait, ma liberté va s'arrêter ou est-ce que celle de l'autre va commencer aussi dans un sens que je vais faire attention à lui, à sa personne. OK, merci Guy, il y avait Serge. Ouais. C'est ça, esclave de la justice. Ouais, certainement. Mais on est libéré de l'esclavage du péché, on est libéré pour devenir esclave de la justice. Je parle à la manière des hommes, c'est ce que Paul dit dans Romains 6. Et on va lire tantôt un verset qui concerne ça. Je prends un dernier commentaire, après ça, on va lire 5 textes de suite. Oui, Gisèle. Doux et léger. Ouais. Ouais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Joanie? De persévérer dans la foi. Ouais. Alors, si j'ai été libéré, Dieu veut que je demeure fidèle. Et dans cette fidélité-là, je vais persévérer, je vais marcher, je vais combattre le bon combat. Un dernier commentaire, après ça, on lit des textes. Emmanuel? Ouais. Alors, on doit être l'utiliser avec vigilance et de ne pas l'utiliser pour le péché, mais pour la justice, finalement, aussi. Quelques volontaires. Un volontaire qui va me lire Galates 5, 13. Un volontaire. Daniel. Un autre volontaire, 1 Corinthiens 8, 9. René. Un autre volontaire, 1 Pierre 2, 16. OK, Serge. Un autre volontaire, Romains 6, 16. Frédéric. Et un dernier volontaire, 2 Pierre 2,19. Ça fait plusieurs textes, ça, c'est vraiment thématique. Mais OK, André. Et on s'en va là. On y arrive bientôt, là. De quoi, je pose une autre question, on lit les textes, OK, sans nécessairement y répondre, mais les textes vont y répondre. De quoi sommes-nous libres et de quoi ne sommes-nous pas libres? Est-ce qu'il y a certaines libertés qu'on n'a pas finalement? Est-ce qu'on a une liberté entière? Est-ce que tout m'est d'une façon absolument permis? Ou est-ce qu'il y a des choses qui ne me sont pas permises? Galates 5,13, le volontaire qui avait allé. OK, j'aime beaucoup ce verset-là. Et ça revient à ce paradoxe-là, ça revient à ce qu'on disait tantôt avec Emmanuel, c'est-à-dire que, frère, vous avez été appelé à la liberté. Je suis appelé à vivre dans la liberté, à en jouir, à en profiter. Seulement, ne faites pas de cette liberté-là un prétexte de vivre dans la chair, de pratiquer le péché. J'ai pas la liberté d'aller vivre dans le péché, de pratiquer le péché. Mais rendez-vous quoi? Est-ce, par amour, rendez-vous serviteurs, esclaves, les uns les autres. C'est très bien. C'est ce que Dieu nous appelle dans son amour. Dieu veut qu'on pratique cet amour-là les uns envers les autres. Et la liberté que Dieu m'a donnée face au péché, c'est le commandement que de se servir les uns les autres aussi, de se pratiquer cet amour-là. 1 Corinthiens 8-9. OK, c'était le contexte un peu ce que tu disais tantôt, Guy. C'est-à-dire que ma liberté ne doit pas devenir une pierre d'achoppement pour les faibles. Parce que si par ma liberté, j'emmène mon frère à pécher, est-ce que j'ai bien agi? Mais non, qu'est-ce que Dieu dit de ça? J'ai péché. Si j'emmène mon frère à pécher en étant une pierre d'achoppement pour lui à cause de ma liberté, bien j'ai moi-même péché en faisant ça. Et est-ce que c'est vivre et pratiquer la liberté que de pécher? Non. Alors, je ne peux pas pratiquer cette liberté-là dans un sens où ce que je vais, à cause de ma liberté, amener celui qui est faible dans la foi à lui pécher et à être moi une pierre d'achoppement pour lui. 1 Pierre 2,16. OK. C'est la volonté de Dieu, 1 Pierre 2,15, qu'on réduise au silence les gens qui nous demandent raison de l'espérance qui est en nous. Et on doit sanctifier Christ, le Seigneur, dans nos cœurs, mais aussi on est libre, étant libre de faire, étant libre, sans faire de la liberté un voile qui va en venir à un moment donné à devenir de la méchanceté. Un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme quoi? Comme des serviteurs de Dieu. Étant libre, on est quoi? Des serviteurs de Dieu. Et ma liberté ne doit pas être quelque chose, un voile qui va couvrir la méchanceté qui est là parce que je suis libre. Et je peux répondre avec arrogance ou peu importe quel est le contexte. Ma liberté ne doit pas m'amener à un point où ce que je n'aime pas mon prochain. Romains 6, 16. OK. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Deux choix. C'est-à-dire que si c'est le péché qu'on pourrait appeler désobéissance, si je me livre au péché, bien où ça me mène? À la mort. Mais si finalement je me livre dans l'obéissance, où ça me mène? À la justice. C'est ce que Dieu veut. Et Dieu me dit que en me livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, bien, je deviens esclave d'acquis de j'obéis. Et c'est de qui je vais être l'esclave? De Christ, de Dieu, et non pas du péché. Je ne veux pas devenir l'esclave du péché. Et 2 Pierre 2,19, on pourrait lire le contexte en entier, mais ça serait un peu plus long, mais on va lire juste le verset 19. André? OK, il y avait ces hommes-là qui venaient, et puis fort probablement des apostats, justement, comme on voyait ce matin, des gens qui reniaient la foi et qui venaient avec des beaux discours et puis promettaient la liberté et puis suivez-moi, et puis vous allez vivre de belles choses. Et puis un discours qui était corrompu finalement à cause de leur propre vie, comment est-ce qu'eux-mêmes le vivaient, quand ils sont eux-mêmes, quoi? Esclaves de la corruption. Ils sont eux-mêmes esclaves. Ils promettent la liberté, mais ils sont esclaves de la corruption. Quelle liberté est-ce que je peux trouver dans le monde? Quelle liberté est-ce que je peux trouver dans le péché? Quelle liberté est-ce que je peux trouver dans la satisfaction de ma chair? Ben, l'esclavage à la corruption. De devenir moi-même esclave de la corruption. Et c'est un chemin qui mène à la mort. Car chacun est esclave de quoi? De ce qui a triomphé de lui. Qu'est-ce que je laisse triompher dans ma vie? Le péché ou Christ? Si Christ triomphe dans ma vie, mais je vais vivre en vainqueur aussi. Et je vais devenir esclave de Christ. Et ça, ça me fait plaisir. Ça, je suis content de ça, d'être le serviteur de Jésus. Mais je ne veux pas laisser ce péché-là qui mène à la corruption ou ce que je vais devenir esclave si je le laisse dans ma vie. J'arrive bientôt à mon point comme tel. De quoi est-ce que le peuple de Dieu a été libéré? De l'esclavage. Décrivez-moi un peu l'esclavage que le peuple dans lequel il a été libéré. Quel esclavage est-ce qu'il a été libéré? Comment? Le peuple d'Israël. OK. OK. Est-ce que le peuple d'Israël, est-ce que les Hébreux étaient heureux en Égypte à devenir des esclaves? Il y avait les cocombes qui voulaient revenir. Quand ils étaient dans le désert, après quelques jours de marche, tout à coup, ça devenait important. Mais ils avaient oublié comment est-ce qu'ils avaient souffert en Égypte. Est-ce que c'était une situation agréable pour un peuple que d'être esclave d'un autre peuple? Non, c'est ça. C'est ça. Alors, non, ils n'étaient pas payés. Ils souffraient. Quand quelque chose se passait qui contraignait les Égyptiens, on leur fournira plus la part. Ils vont aller la chercher eux-mêmes. Et puis, ils vont travailler encore plus. Puis, ils doivent rendre le même rendement. Ils étaient oppressés. Ils vivaient cet esclavage-là. Est-ce que ça a duré 2 ans? 400 ans d'esclavage. Ces Hébreux-là qui sont restés en Égypte pour être esclaves. Dieu envoie un homme, Moïse, et fait sortir le peuple. Dieu fait sortir le peuple de l'esclavage. C'était la libération de cet esclavage-là dans lequel ils vivaient. Ils sont sortis de la mer, ils sont arrivés dans le désert, ils ont passé 40 ans dans le désert à cause de leur incrédulité. Et là, en terre promise, qu'est-ce qu'ils devaient découvrir, ces Hébreux-là? Qu'est-ce qu'ils découvraient? La liberté. Les Hébreux sont sortis de cet esclavage-là chez les Égyptiens. Ils sont sortis et maintenant ils arrivent dans un pays qui leur avait été promis, où ce qu'ils pouvaient vivre la liberté que d'être un peuple, que d'avoir la loi qui avait été donnée de Dieu à eux et qui devait maintenant devenir un peuple de plus en plus constitué, civilisé et qui allait s'établir en terre promise, en Canaan, et qu'ils allaient pouvoir goûter la liberté, le bon pays qu'ils avaient. Est-ce que ça allait se produire sans effort? Non. Et il s'est passé plusieurs choses, justement, dans l'établissement du peuple en terre promise. Mais le peuple est passé d'un état d'esclavage pour aller en terre promise pour vivre la liberté, pour vivre cette possession-là du pays que Dieu leur a accordé. Et le livre des juges témoigne que le peuple de Dieu, dans cette terre promise-là, dans ce bon pays-là d'abondance, ils ont été esclaves. Encore en terre promise, une façon de parler en devenant eux-mêmes soumis au peuple qui était là, à cause de leur désobéissance à Dieu. Et qu'est-ce que l'on connaît du livre des juges? Quel thème vous connaissez du livre des juges? Des phrases clés qui vous reviennent, des thèmes qui viennent. Oui, Céline. Il n'y avait pas de roi. Chacun profitait de sa liberté. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Parce qu'ils avaient compris la liberté. Alors, d'autres choses que l'on connaît du livre des juges. Ouais. Alors, il devait du moins continuer le combat, puisqu'on voit avec la rentrée avec Josué qu'il y a eu des combats. Et puis en juge, ça se continuait. Il devait continuer de faire sortir ces peuples-là étrangers, parce que Dieu leur avait demandé, avant d'entrer en terre promise, vous allez faire sortir, vous ne créerez pas d'alliance avec ces peuples-là. Vous allez les faire sortir. Quoi d'autre? Qu'est-ce que l'on connaît du livre des juges? Des thèmes ou des phrases-clés qui reviennent? Oui, Céline? Ils oublièrent l'Éternel. Oui. Quelque chose qui revient souvent. Peut-être, oui, René. Ouais, c'est ça. Les trois C. Conneries, c'est bon. Ouais, ouais. C'est ça. Serge, t'avais levé la main aussi? Il suscitait un délire. Ouais. Ouais. C'est ça. Comment est-ce que vous trouvez le livre des juges? Trouvez-vous que ça a l'air redondant? Il me semble que c'est toujours la même histoire. C'est pas toujours le même juge, la même histoire du juge, là, mais c'est toujours le même élément déclencheur. C'est toujours le peuple ont oublié, ont abandonné. Et autant s'il y a de la monotonie dans le péché qui revient continuellement dans le péché du peuple, Dieu suscite d'une façon miraculeuse, d'une façon spectaculaire à chaque fois, un libérateur qui va venir pour les sortir de là. Et on voit à travers le livre des juges, le caractère de l'homme, le caractère de Dieu, comment est-ce que Dieu veut agir, comment est-ce que Dieu veut délivrer encore son peuple de l'oppression qui est là, mais comment est-ce que le peuple lui-même va aller se placer dans l'esclavage parce qu'il n'use pas de cette liberté-là de servir l'Éternel et d'obéir à l'Éternel dans la vérité, comme on disait tantôt. Qu'est-ce que c'est la liberté sans Dieu? Mais c'est un peu celle que l'on trouve dans les juges, un cercle qui revient toujours à la désobéissance, à la défaite, à la repentance, puis à la victoire. Et puis, le livre, il s'étend, il y a une période, je vais juste faire une petite introduction pour qu'on se replace un peu les éléments dans la tête. Le livre va s'étendre de la fin de Josué jusqu'à l'établissement de Saül comme roi pour un total d'environ 350 années que l'on va voir à travers le livre des juges. Et puis, une nouvelle heure avait sonné pour le peuple, il était entré en terre promise, il avait quitté l'Égypte, et puis maintenant, ils n'étaient plus esclaves, justement en Égypte, ils avaient traversé la mer et le désert. Et puis maintenant, ces nomades-là allaient s'établir dans une terre qui leur avait été promise. Le livre des juges nous met aussi en parallèle le caractère de l'homme et celui de Dieu, comme je disais tantôt. On va voir comment est-ce que Dieu va agir face au péché de l'homme et comment est-ce que l'homme, lui aussi, doit agir face à Dieu dans sa repentance. Si Dieu, lui, ne change pas, tout au long du livre des juges, Dieu n'a pas changé. Dieu est demeuré fidèle. Et si, vous vous souvenez de Timothée, pas ce qu'il dit à Timothée, si on est infidèle, lui demeure fidèle. Et on voit la fidélité de Dieu à travers l'infidélité de son peuple, continuellement de voir un Dieu qui est présent, qui ne change pas, puis qui aime son peuple et qui l'appelle continuellement à la repentance. En tout, il y a eu, qu'on peut lire dans les juges, 15 juges. Qu'on peut différencier peut-être en trois types de juges. On connaît le juge guerrier, comme par exemple Gédéon, Samson. Il y a le juge sacrificateur, comme Élie. Et puis il y avait des juges aussi qui étaient comme des prophètes, comme Samuel. Et c'était des gens que Dieu envoyait pour délivrer son peuple. Et puis, une des leçons de ce livre est que lorsqu'un peuple passe la majeure partie de son temps à désobéir à Dieu, il ne fait pas beaucoup de progrès. Notre vie chrétienne ressemble à ce que le peuple de Dieu pouvait vivre aussi. si le peuple de Dieu continuellement retombait dans leur péché, on lit l'histoire des juges et on a l'impression que le peuple avance pas. On dirait qu'ils n'ont pas de progrès dans le pays dans lequel ils sont. Ils retombent continuellement. Mais notre vie chrétienne doit être très différente de ça, où ce que on ne va pas vivre dans le péché, on ne va pas laisser le péché dans notre vie pendant une période de temps, mais rapidement on va le confronter pour que l'on puisse avoir du progrès dans notre marche avec Dieu, de goûter ce que c'est réellement la liberté, et pas une liberté qui nous relie au péché. Juste rapidement, j'avais pensé apporter la distinction qu'il y a entre le livre de Josué et de Juges. Les juges. Si on lit le livre de Josué, on va voir qu'il y a beaucoup de joie. Quand on lit le livre des juges, il y a beaucoup de tristesse. On va comprendre pourquoi, à cause du péché. Dans le livre de Josué, on peut voir la vision céleste, cet attachement-là à Dieu, comparativement au livre des juges, qui est un attachement terrestre ou d'une perte de la perception de ce que Dieu veut pour eux. On voit dans le livre des juges la victoire en abondance, puis dans le livre des juges, des défaites en abondance. On va lire dans le livre de Josué un progrès, la conquête du nord, la conquête du sud. On va voir des conquêtes, des grandes victoires. Puis dans le livre des juges, un déclin comparativement au livre de Josué qui est un grand progrès. On va lire dans le livre de Josué que le peuple place sa foi en Dieu, il se confie en Dieu, il avance et puis avec Josué qui est son chef, mais il persévère dans la foi comparativement au livre des juges qui est quoi? L'incrédulité souvent, qui emmène à abandonner, à oublier et même à ne pas connaître le Dieu de leur père. Et finalement, on voit dans le livre de Josué cette liberté-là que le peuple vit en rentrant en terre promise, même s'il y a ces conquêtes-là. Puis le livre de Josué, on va voir beaucoup l'esclavage, plus que la liberté qui est pratiquée. Je vous invite à tourner dans Juges 2. Je pense qu'on peut utiliser l'exemple du peuple de Dieu pour nos vies personnelles. Et de voir comment est-ce que le peuple de Dieu, de voir leurs erreurs et de dire que je dois être vigilant avec ma marche chrétienne, avec ma relation avec Dieu, à ne pas reproduire des erreurs semblables et à tirer des leçons à comment est-ce que je veux vivre ma liberté, comment est-ce que je dois vivre la liberté que Dieu me donne. Si Dieu m'a affranchi, c'est pour la liberté. Et si je suis libre, c'est parce que Dieu m'a affranchi, m'a libéré du péché. Je ne veux pas revenir du péché. Avant qu'on aille lire Josué 2, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que je pense faire la mini-série, si je peux dire, sur les juges. L'étude du livre des juges, on peut la synthétiser d'une façon relativement simple. 7 abandons principaux, 7 périodes d'esclavage, 7 nations étrangères dominantes et 7 délivrances. Alors, avec 7 période comme ça, d'abandon de Dieu, ben vient ce cycle-là, comme on a dit tantôt, d'une période d'esclavage, des nations étrangères qui dominent, et puis finalement, où ce que Dieu nous amène à délivrer, la délivrance. Pour conclure ce soir, ce que je veux voir avec vous dans le livre des juges, dans quelques versets qu'on va puiser ici et là, avant qu'on ne verra pas la première section ce soir pour le premier abandon, si je peux dire, là, voir les premiers juges dans cette première période d'abandon-là. Mais ce que je veux faire l'étude ce soir, c'est le caractère de l'homme. Comment est-ce qu'il est? En quoi est-ce que les juges peuvent révéler des choses sur mon propre cœur, sur le cœur de l'homme, et de quoi je dois faire attention? Il y a deux autres thèmes aussi avant qu'on aille lire. Là, je dis beaucoup de choses, là, je ne sais pas si tout rentre, là, mais... Le livre des juges a des thèmes principaux, comme on a dit tantôt, et puis le caractère de l'homme en est un important, où ce qu'on voit comment est-ce que le peuple abandonnait régulièrement Dieu. Un autre thème important dans le livre des juges, c'est de voir comment est-ce que Dieu veut se glorifier, comment est-ce que Dieu veut être glorifié à travers même les choses viles de ce monde, où ce que même les petites choses qui sont sur la terre, que Dieu va les utiliser pour se glorifier. Est-ce que vous avez quelques exemples dans les juges de ça? Comment est-ce que Dieu utilise des petites choses pour sa gloire? Et Gédéon, avec sa grande armée de 300 soldats contre une coupe de 100 000, faudrait que je revérifie, là, ou peut-être 10 000. C'était quoi? Ah, la mâchoire d'âne, oui. Et puis, un autre juge qui a tué 600 Philistins avec un aiguillon à bœuf. C'était quelque chose, ça aussi, l'aiguillon à bœuf. Samson, comment est-ce que lui aussi a été utilisé par Dieu pour délivrer son peuple des Philistins. Bref, Dieu veut se glorifier à travers les choses viles de ce monde, ou ce que viles de ce monde dans le sens que je peux pas tirer ma propre gloire de par ces choses-là. Ça devient évident que c'est de Dieu. Et un autre thème intéressant dans les juges aussi, c'est l'Esprit de l'Éternel que l'on voit à plusieurs reprises. Comment est-ce que Dieu, d'une façon précise, d'une façon ponctuelle aussi sur certaines situations, comment est-ce qu'il agit en ayant l'expression « l'Esprit de Dieu », l'Esprit de l'Éternel. OK, on va lire Juges 2, les versets 11 à 13, le verset 17 et le verset 19. Quelqu'un qui veut lire ça? Juges 2, 11 à 13. OK, Serge. Le verset 7, t'as dit? J'ai dit 17. Ouais. 11 à 13. Après ça, 19, puis 17 et 19. Ouais. C'est-tu parce que tu l'avais à cœur ou c'est parce que tu avais mal compris ce que j'avais dit? Tu l'avais à cœur? Ah oui, vas-y, certainement. Je pensais que tu avais compris juste 7, mais je disais 17. OK, vas-y, vas-y, Serge, je vais pas t'en... Vas-y, Serge. Oui. Après ça, le verset 17 et le verset 19. Je sais, c'est un peu décousu, là, mais vas-y, Serge. OK. C'est le début. On va lire, on va relire tantôt. On va lire plutôt pour relire, mais c'est pratiquement les mêmes mots qu'on va lire plus tard. Bien, de voir comment est-ce que le peuple, à partir de ce premier épisode-là, ça va se reproduire encore puis reproduire. Comment est-ce que le peuple de Dieu a utilisé leur liberté? Comment est-ce qu'ils ont vécu dans cette terre promise-là? Comment est-ce qu'ils ont utilisé cette liberté-là qu'ils avaient maintenant? Oui, tu allais dire quelque chose, Daniel? Ouais. C'était quoi le problème avec le peuple de Dieu? Oui, Bertrand? Ouais. Est-ce que... comment? L'esclavage du péché. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils servaient Dieu. Sous Josué, ils servaient Dieu. Puis à un moment donné... revirement de situation. Qu'est-ce qui s'est passé, Serge? Oui. C'est ça. Il y a des choses intéressantes. parce que on voit justement, particulièrement dans le chapitre 2, comment est-ce qu'il s'est élevé une autre génération qui, elle, ne connaissait pas Dieu. Et si en lisant Juge 1, on voit effectivement le compromis qu'il y a eu de la part des parents en entrant dans la terre promise. Je vais vous donner des exemples tantôt. Est-ce qu'il y a eu un bon travail de la part du peuple, de la première génération, à transmettre les valeurs à leurs enfants? Certainement qu'il y a eu le compromis que tu disais tantôt. Et on voit aussi plus tard que la génération faisait pire que leur père. Alors certainement qu'il y avait un choix, même de cette génération, à dire « Moi, ce que mes parents faisaient, là, ça m'intéresse pas. » Et de eux-mêmes se rebeller en disant « Non, non, moi, je suis pas la même chose. » Et puis une génération passait et eux aussi faisaient le choix, tout aussi en gardant un autre aspect qui était probable et possible de parents qui ne communiquaient pas à leurs enfants ou d'enfants qui faisaient le choix de lever la poing contre Dieu. Et alors, il y a différents éléments qui font que l'on voit justement, comme tu disais le verset 7, que la première génération servait Dieu. Et après ça, on arrive au verset 10. « Toute une génération fut recueillie auprès de ses pères et s'éleva après elle une autre génération qui, quoi? Qui ne connaissait point l'Éternel ni ce qu'il avait fait en leur faveur. » Comment ça se fait? Comment ça se fait? Cette génération-là n'avait pas entendu parler de ce que leur père avait vécu dans le désert. Et puis, ils n'ont pas juste tourné 40 ans dans le désert. Il s'est passé des choses miraculeuses dans le désert. Et dans l'entrée de l'Terre promise aussi, il s'est passé des miracles, la prise de Jéricho. Il s'est passé plein de choses. Et ils ne connaissaient pas. Et puis... Ouais. C'est ça. Et c'est quoi qui s'est passé dans leur tête pour aller vers d'autres dieux? C'est quoi le motif qu'il y a derrière ça? On dirait que dans notre société, quand on lit ça, dans notre culture, aller adorer d'autres dieux, c'est pas nécessairement quelque chose de tentant. En tout cas, pas pour moi. C'est pas quelque chose qui m'intéresse d'aller adorer d'autres dieux dans une façon très concrète, comme ce que l'on voit, là, les Astartés. Puis... Mais c'était quoi qu'il y avait derrière ça? C'est quoi le motif du cœur, finalement, qui pourrait être dans mon cœur à moi aussi? C'est quoi qui s'est passé dans leur cœur, Joanne? Oui, de se rebeller contre Dieu. Oui, René? Oui. C'est... Ouais. Mm-hmm. Ouais. Et ces idoles-là, d'où ils sont nés? Est-ce qu'ils sont... Dieu a toujours été... Il a toujours été là. Il est venu un jour nous chercher. Mais ces idoles-là n'ont pas toujours été là. Ils sont nés de où, ces idoles-là? Des nations païennes. Bref, elles sont nées du cœur de l'homme. L'homme, il s'est créé des dieux. Il s'est créé des dieux qui allaient satisfaire sa propre chair. Puis il allait être content de servir ce dieu-là parce que ça la donne bien. C'est ça qu'il voudrait faire. Et j'imagine qu'il y a un élément aussi très terrestre où ce que... C'est peut-être facile de servir une idole qu'on est capable de sculpter, qu'on est capable de voir, et ça ne demande pas de foi. Je suis capable de voir cette idole-là, comme les Astartés, qui étaient des petites idoles là, que les Phéniciens, j'avais noté, avaient particulièrement de cette déesse de la fécondité qu'ils avaient, ces Astartés-là. Et c'était facile d'adorer ces Astartés-là, j'imagine. Alors, d'où ça venait, ces idoles-là? Mais certainement de leur propre cœur. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait de leur liberté? Bien, ils l'ont utilisé finalement pour le contraire de ce qu'on peut lire dans Thessaloniciens. Ils ont abandonné le Dieu vivant pour servir les idoles mortes. Et c'est pas ce que l'on veut ressembler. Tantôt, on lisait Galates 5.1 « Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre sous le joug de la servitude encore. » Ce peuple-là entre, ils ont la liberté au bout des doigts à pouvoir saisir et jouir de la liberté et à servir l'Éternel. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent sous un joug qui n'est pas un esclavage comme ce qu'ils ont nécessairement vécu en Égypte, mais un esclavage finalement de leur propre péché qui mène à la corruption, à la mort. On va terminer de lire Josué, quelques versets, Juges 8, 33 à 35. Après ça, on va aller dans Juges 10, 6 et après ça, 13, 1. 8, 33. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal et ils prirent Baal-Bérith pour leur dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient, et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubbaal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. On va aller chapitre 10, verset 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Ils servirent les Baals et les Astartés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. C'est intéressant de voir que la liste des dieux s'allonge avec le temps. Mais ils ne servirent plus l'Éternel. Ils sont allés servir plein de dieux. Là. Ils en ont plein de dieux qui sont allés servir, mais ils ont abandonné le service à l'Éternel. Et pour terminer, 13.1, les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Le peuple de Dieu a abandonné l'Éternel pour se tourner vers son péché, j'imagine, quelque chose qui lui plaisait, de servir d'autres dieux, des idoles qui étaient là, qui n'avaient pas chassé. Tantôt, j'allais dire, il y a eu du compromis. Si on lit Juges 1, on voit que le peuple prend possession de la terre, mais il arrive dans peu importe quelle est la tribu, dans quel coin de pays, ça arrive souvent que l'on voit, ils ne chassèrent point les gens qui étaient là, mais ils les soumirent à un tribut. Alors, ils vont devenir nos esclaves. On ne fera pas d'alliance avec eux, mais on va profiter d'eux. Puis on va leur demander un tribut, puis en plus, ils vont nous donner l'argent, puis... Ils ont fait un compromis que plutôt que de chasser comme ce que Dieu avait demandé, parce qu'ils savaient très bien, Dieu, que ce peuple-là en viendrait à l'idolâtrie à un moment donné s'ils ne chassaient pas ces autres peuples-là. Et puis, ils faisaient un compromis puis en disant, on ne fera pas d'alliance, mais ils vont devenir assujettis à nous et puis on va les soumettre à un tribut. Et on voit ça dans le verset 28, verset 30, verset 33, le verset 35 du chapitre 1, qu'il est soumis à un tribut. Ils faisaient un compromis en disant, on va les garder avec nous. Est-ce qu'on est bien loin de leur ressembler? Ça, c'est loin, cette histoire-là. Ça nous ressemble plus beaucoup. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une attitude révolue que le peuple de Dieu avait? Ou est-ce que, si je ne suis pas vigilant, j'ai ce même danger-là que de... Si je connais Christ... Je ne crois pas que je vais abandonner la foi comme le peuple l'a fait d'une génération après l'autre, mais de revenir sous l'esclavage du péché, est-ce que c'est un péché, est-ce que c'est un danger qui me guette encore? Oui, certainement. Et on a à être vigilant et de voir, quand on lit les juges, la faiblesse de ce peuple-là, où est-ce qu'on est capable de se dire, est-ce que je suis meilleur qu'eux? Est-ce que je suis plus fort qu'eux? Ou est-ce que je dois prendre garde de tomber pour que justement que Dieu me fortifie à ne pas retomber dans le péché, à ne pas retomber là? Je crois qu'on peut tirer plusieurs leçons de vie dans le livre des juges à travers pas juste la désobéissance du peuple, mais de voir la repentance du peuple. On peut apprendre beaucoup de choses sur le caractère de Dieu aussi que l'on peut mettre en pratique dans nos vies, dans notre relation avec lui et de voir comment vivre la délivrance, comment vivre la liberté aussi. Et c'est à quoi que Dieu nous a appelés? À la liberté. C'est à ça que Dieu m'appelle. C'est dans ça que Dieu veut que je vive. Dieu ne veut pas que je sois esclave du péché, mais il veut que je lui sois serviteur. Et qu'il m'emmène aussi à devenir serviteur les uns des autres. Dernière question ou commentaire? Oui, Jean-Pierre. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ouais. Puis on doit se souvenir qu'on a besoin de Dieu maintenant, pas juste quand on va être mort. Ouais, merci Jean-Pierre. Oui, Serge. Ça. Est-ce que je persévère moi-même dans la foi? Ouais. C'est bon, merci Serge. C'est vrai. Mais prions pour terminer. Adorer Dieu pour cette liberté qu'il nous donne, puis en même temps s'engager à la vivre comme ce que lui veut que l'on la vive. Seigneur, on vient devant toi. Tu nous as tellement donné beaucoup que on vient devant toi justement pour te dire merci. T'adorer. Cette liberté-là, Seigneur, elle est précieuse pour nous. Elle est, on veut la chérir. On veut vivre dans la liberté que tu nous donnes. Tu veux pas qu'on soit esclave de notre péché. Tu veux pas qu'on soit esclave de ce de quoi tu nous as affranchis, de ce même pourquoi tu es mort aussi pour nous donner la liberté. On veut vivre dans la liberté comme ce que toi tu veux que l'on vive. On veut serrer ta parole dans nos cœurs, Seigneur. Tu dis que c'est une loi de liberté et on veut la mettre en pratique, cette parole-là qui nous affranchit. Et parce que c'est ta parole, c'est ce que toi t'as à nous dire. On veut prendre l'exemple de ton peuple, Seigneur, de cette période où il y a eu les juges. Et Seigneur, on veut nous-mêmes faire attention à notre propre marche avec toi. On veut te servir de jour en jour et que d'année en année, on est capable de constater que on ne t'a pas abandonné, mais qu'on continue de te servir avec une ardeur de plus en plus grande. Et c'est à ça qu'on veut s'engager. C'est dans cette liberté-là que l'on veut vivre, de se rendre esclave pour toi, de se rendre serviteur pour toi et les uns des autres aussi, par amour. Merci Seigneur pour tout cela que tu nous donnes. Au nom de ton Fils qu'on te prie. Amen.